Monsieur le Premier ministre, bonjour.
Bonjour.
Le 31 août dernier, votre vice-premier ministre a co-signé un communiqué annonçant la publication d'un calendrier électoral incessamment. On en est où aujourd'hui ?
Nous allons procéder à l'évaluation du processus et ainsi annoncer un calendrier réaliste dans quelques jours.
Dans quelques jours, c'est-à-dire d'ici la fin de ce mois de septembre ?
C'est fort possible qu'il y ait la deuxième réunion d'évaluation, parce que la première a eu lieu, pour annoncer le calendrier électoral réaliste.
Alors ce calendrier électoral réaliste, ça veut dire d'ici la fin de cette année ou pas ?
Le calendrier réaliste, c'est-à-dire que nous devons tenir compte de toutes les contraintes. La CENI a enrôlé 39 millions des 41 millions attendus. Malheureusement, dans la province du Kasaï central, il y a eu ce que vous avez suivi. Après avoir terminé l'ensemble de l'enrôlement, on pourrait annoncer un calendrier qui tient compte de toutes les contraintes.
Alors l'opposition est à bout de patience. Le 5 septembre, Félix Tshisekedi a déclaré « L'heure est plus que grave, nous n'allons plus accepter aucune négociation, Kabila doit partir ».
C'est une déclaration à l'emporte-pièce. S'il y a des contraintes qui font que l'on ne puisse pas organiser ces élections à la date convenue, donc au plus tard au mois de décembre, c'est pas une raison pour dire que nous sommes au bout du souffle, Monsieur Kabila doit partir. L'accord dit que le président Kabila reste en fonction jusqu'à la tenue des élections générales. Et donc pour nous, l'accord a mis fin à la logique de la confrontation. Nous avons opté pour la gestion concertée et consensuelle des affaires de l'État jusqu'à la tenue des élections générales.
Alors, autre couac dans l'application de l'accord du 31 décembre dernier, votre nomination en avril dernier. Selon l'accord, le Premier ministre doit être issu du rassemblement de l'opposition. Or, vous êtes un dissident de ce rassemblement.
Pas du tout. Lorsque le président Étienne Tshisekedi est décédé le 1er février, nous avions convenu au niveau du rassemblement, c'est moi qui présidais les réunions, que nous ne ferions rien jusqu'à l'enterrement de notre président. Et ça se passe comme ça dans tous les pays, dans toutes les cultures. Mais avant que le président ne soit enterré, une partie du rassemblement se permet d'initier une réforme inopportune et immorale. Cette réforme a été à la base de la scission que nous avons connue. Il y a eu deux courants, le courant humaniste et tshisekédiste que j'anime avec Olengango et les autres, et le courant pro-Katumbi qui est un courant matérialiste, composé des gens qui ne sont pas des opposants, qui sont venus à l'opposition il y a moins de 2 ans.
Alors c'est vrai, Bruno Tshibala, que vous êtes un vieux compagnon d'Étienne Tshisekedi. Je crois que vous avez même fait de la prison il y a encore un an, c'est ça ?
C'est la 15e fois que je faisais la prison.
Mais après la mort d'Étienne Tshisekedi, un mois plus tard, le 4 mars, vous avez été exclu par votre parti UDPS.
Monsieur Boisbouvier, je suis cofondateur historique de l'UDPS.
Certes, mais vous avez été exclu.
Le jour où l'on crée l'UDPS, j'étais là. Et donc, après la mort du président Étienne Tshisekedi, qu'est-ce qui devait se faire ? Je parle des statuts dont je suis rédacteur principal avec le président Tshisekedi. Ces statuts stipulent qu'en cas de décès, au terme de 30 jours, un congrès extraordinaire est convoqué pour élire le nouveau président. Pour ne l'avoir pas fait, nous nous retrouvons dans une crise juridique et institutionnelle. Personne ne peut prendre une quelconque décision. Voilà pourquoi la décision à laquelle vous faites allusion, c'est une ânerie. Je suis en train de m'organiser en tant que le plus ancien membre du parti, en tant que cofondateur historique du parti, pour convoquer le congrès extraordinaire du parti.
Mais Bruno Tshibala, pour la plupart des militants UDPS, le successeur d'Étienne, c'est son fils Félix. Or, celui-ci vous considère comme un traître.
Ce monsieur Félix qui est un grand traître, parce que d'abord, la plupart des membres du parti n'accepte pas que à l'UDPS on puisse pratiquer une sorte de népotisme, qu'après la disparition du docteur Duvalier, que l'on connaisse encore des bébés d'oc au sein de l'UDPS. C'est un parti démocratique et révolutionnaire.
Alors il n'y a pas que vos anciens camarades de l'UDPS qui vous considèrent comme un faux frère. Les évêques de la SENCO eux-mêmes, donc les artisans de l'accord du 31 décembre dernier, affirment que votre nomination est une entorse à la mise en œuvre de cet accord.
Mais ils se sont déjugés par rapport à cette affirmation.
Ben, ils l'ont dit.
Aujourd'hui, poser la question à la SENCO, ils vous diront que c'était une erreur de penser ainsi.
Le chef de la démocratie chrétienne, Eugène Diomi Dongala, est pour vous un vieux compagnon de route. Sa condamnation à 10 ans de prison est très controversée. Est-ce qu'il va rester en prison jusqu'en 2024?
Il avait été convenu au niveau du dialogue que les évêques, avec le ministre de la Justice garde du Sceau, M. Alexis Tambemomba, qui est un de mes meilleurs ministres, devaient se concerter pour voir comment régler le cas qui n'était pas facile lorsque ces cas présentent une ambiguïté entre le droit commun et les infractions politiques. Les jeunes Diomi Dongala, compagnon, comme vous venez de le dire avec raison, se retrouve dans cette situation avec M. Katumbi, des cas qui présentent une certaine ambiguïté. Est-ce le droit commun? Est-ce les infractions politiques? Et donc, nous sommes en train de travailler là-dessus pour que ce cas emblématique soit réglé. Et je pense qu'avec les évêques, avec le ministre de la Justice, on arrivera à trouver un compromis.
Les cas emblématiques de Diomi Dongala.
Diomi et M. Katumbi, ces deux cas emblématiques.
Bruno Tshibala, merci.